et le racisme. Né en 1974 à la Martinique, il est un universitaire français et a été à l'initiative en 2005 de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, une journée qui est reconnue maintenant par l'ONU. Louis Georgetin prend régulièrement la parole pour dénoncer les injustices, toutes les injustices, notamment envers les communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres et envers les personnes racisées. Nous faisons cette entrevue dans un petit café, enfin un restaurant qui s'appelle Le Paradis du Fruit. Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal, ça peut arriver. Bienvenue à l'émission, Louis-Georges.
Merci de votre invitation.
Alors, Louis-Georges, on utilise quel pronom et quel accord avec toi?
Eh bien, on peut dire « il ».
Il, c'est bon. D'accord. Je vais commencer par une question un petit peu chauvine qui va te faire sourire. Je la pose avec donc beaucoup d'humour. Au Québec, la Fondation Émergence se réclame de la création de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, qu'elle attribue à son président et fondateur, Laurent McEachin, qui est décédé maintenant. Par transparence, je l'ai aussi écrit dans la biographie que j'ai rédigée sur Laurent McEachin. Or, si on fait une recherche en ligne, on y trouve ton nom. Alors, qui dit vrai? Qui a créé cette journée?
Alors, les choses sont assez simples. La Fondation Émergence avait créé en 2004 une journée contre l'homophobie qui était célébrée en juin ou en juillet, qui était essentiellement au Québec, peut-être un peu au-delà, au Canada. Mais en 2005, j'ai créé une journée qui est le 17 mai, pour des raisons que je pourrais expliquer. Et c'est cette journée qui a été reprise dans le monde entier, célébrée dans 40 pays la première année, aujourd'hui plus de 144, et qui est reconnue par l'ONU. Donc, effectivement, voilà un peu la chronologie des faits.
Oui, le 17 mai, il faudrait le préciser, c'est la journée que...
Alors, j'ai choisi cette date parce que, pour trois raisons. Premièrement, parce que c'est le 17 mai que l'Organisation mondiale de la santé a supprimé l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Donc, c'est une date internationale. Je voulais une date internationale pour une journée internationale. Ensuite, c'est une journée positive. Je voulais que l'on puisse célébrer des victoires, car il y en a. Et troisièmement, cette date m'intéressait parce que je disais, si on a pu le faire pour les personnes homosexuelles, on doit pouvoir le faire pour les personnes transgenres.
Voilà.
Donc, il faut également intégrer les personnes trans, a fortiori de nos jours, dans le combat qui est le nôtre. Voilà les trois raisons qui m'ont poussé à choisir cette date et qui a été reprise, qui a été d'abord reconnue par l'Union européenne et ensuite par l'ONU.
La lutte contre l'homophobie et la transphobie, ce n'est pas uniquement cette lutte pour les droits des personnes LGBT. Il y a beaucoup d'autres luttes qui se greffent à cette lutte-là, dont celle du VIH. Louis-Georges, c'est quelque chose qui tient à cœur.
Oui, le sida est un très bon exemple de cette intersectionnalité nécessaire. Quand l'épidémie commence au début des années 80, on le dit, c'est la maladie des Noirs et des homosexuels. Par conséquent, on s'en fiche un peu. Et évidemment, le virus qui n'est ni raciste ni homophobe s'est répandu en population générale et en Occident, il a touché beaucoup de personnes qui n'étaient ni noires ni homosexuelles. Mais on a tardé à le faire et voilà pourquoi le racisme et l'homophobie ont tué des personnes qui n'étaient ni homosexuelles ni noires. En Afrique, c'est la même chose mais à front renversé. Pendant longtemps, beaucoup de leaders, de responsables politiques, politiquement irresponsables, disaient « on s'en fiche du sida, c'est la maladie des homosexuels, donc des blancs ». Puisqu'évidemment, on suppose dans ces pays, souvent, qu'il n'y a pas d'homosexuels en Afrique, ou alors c'est une maladie importée, l'homosexualité. Voilà le discours qu'on entend très souvent. Donc, une épidémie qui tue les homosexuels et les blancs, après tout, tant mieux, ou pourquoi pas. Et donc, voyez comment des préjugés sexuels et raciaux ont également contribué à la diffusion du virus. D'après des enquêtes qui ont été faites, c'est au moins la moitié des 40 millions de personnes mortes du sida depuis 40 ans qui ont été victimes d'un virus augmenté, si j'ose dire. C'est-à-dire, quand on stoppe un virus très tôt, on peut le juguler. Lorsqu'on refuse de s'y intéresser parce qu'il touche des personnes qui sont marginalisées, eh bien, il se répand en population générale. Et voilà ce qui explique pourquoi il a tué tant de gens qui n'étaient pas forcément des personnes homosexuelles, finalement. Eh bien, je crois qu'on doit comprendre à partir de cet exemple deux choses. Un, que la question du préjugé n'est pas une question un peu « oh, chacun a des préjugés, oui, d'accord, mais ce n'est pas très grave ». Non, c'est une question mortelle qui a tué des millions et des millions de personnes. Et deuxièmement, cet exemple fait voir la conjonction des préjugés sexuels et raciaux, puisque ce sont ces préjugés qui ont empêché de traiter l'épidémie comme il fallait à temps. Et on ne l'a pas fait à cause de ces préjugés, et on a laissé le virus se répandre en population générale. Voilà les deux leçons qu'on doit tirer de cela. Les préjugés sont mortels, la convergence est nécessaire.
Louis-Georges, je t'ai présenté comme un militant qui prend la parole pour dénoncer les injustices. C'est vrai, c'est vrai. Et on parle de toutes les injustices, pas celles seulement de nos communautés, de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Alors, pourquoi ne pas limiter la lutte aux questions queer et ajouter toutes les autres?
Il se trouve que je suis noir et homosexuel. Et j'ai une certaine expérience, peut-être même une expertise dans ces deux domaines, ce qui ne m'empêche pas d'être solidaire avec, bien sûr, quantité d'autres combats qui sont également à mener. On dit au niveau de l'ONU que les droits humains sont indivisibles, c'est ce à quoi je crois, et je me suis spécialisé dans ces deux domaines. Vous voyez, par exemple, dans le domaine de la médecine, vous avez des médecins généralistes, et puis on a aussi besoin de médecins spécialistes. Quand vous avez un problème de cœur, vous allez voir le cardiologue. Quand vous avez un problème au niveau de l'œil, vous allez voir l'ophtalmo. Donc il faut des généralistes et il faut des spécialistes.
Alors comment on peut décrire ces liens entre toutes ces discriminations, notamment en partant peut-être de nos communautés, puisque c'est le but de cette émission, mais quand même, comment on peut tout relier tout ça?
On parlait dans les années 70 de convergence des luttes. On parle aujourd'hui d'intersectionnalité. C'est presque la même chose. Déjà, à l'intérieur des communautés LGBT, parfois, il y a des gens qui pensent plutôt homosexuels que LGBT. Et quand ils pensent homosexuels, ils pensent plutôt gays blancs et bourgeois. Mmh. Donc, c'est assez restrictif. Eh bien, qu'on leur rappelle simplement que lorsque les émeutes de Stonewall ont eu lieu aux États-Unis, au départ, c'était une émeute organisée par des gens dans un bar qui étaient pour l'essentiel eh bien, des personnes marginales, des personnes homosexuelles, mais aussi beaucoup de personnes trans, aujourd'hui on dirait queer, des personnes racisées, migrantes, et qui ont eu marre de ces violences policières, de ces descentes, et qui ont résisté pendant plusieurs jours. Et c'est cela que les marches des fiertés aujourd'hui célèbre. Donc déjà, soyons inclusifs à l'intérieur de nous-mêmes, j'ai envie de dire. Les personnes trans qui sont aujourd'hui exposées à tant de violences, tant d'attaques au plus haut niveau, eh bien, elles ont été le fer de lance de notre mouvement. Donc c'est même pas une question de solidarité, c'est qu'elles sont une partie de notre communauté. Et maintenant, au-delà des personnes LGBT, effectivement, on doit aussi comprendre les liens très importants avec d'autres groupes sociaux, et parfois même d'autres groupes sociaux auxquels on ne penserait pas. Et donc cette convergence des luttes ou cette intersectionnalité, c'est aussi ce que j'essaye d'expliquer à bien des égards.
J'aimerais qu'on parle d'un grand débat qui affecte beaucoup de mouvements des fiertés, dont celui de Montréal et celui de Paris aussi, j'en suis certain. C'est le génocide de Gaza. Certains vont nous dire, mais là, ça ne nous regarde pas. On est queer, c'est pas une de nos causes à nous. Est-ce qu'on peut dire ça, Georges? Louis-Georges?
Je comprends qu'on puisse le dire. Maintenant, face à un crime contre l'humanité, du moment qu'on est humain, on doit être concerné.
Oui.
Et je comprends ceux qui voudraient toujours qu'on soit sur un peu une conception étroite de la cause. Mais la cause, précisément, est née d'une volonté de sortir de cette étroitesse, sortir du placard, sortir de ce bar où on était relégué, aller dans les rues. Voilà ce qui fait un peu notre combat. Vous savez, en Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid, il y a eu un peu le même débat. Des associations gays, blanches, disaient « il y a l'apartheid ». Bon, c'est un peu gênant, mais ce n'est pas notre combat. Et d'autres associations gays, blanches, disaient « mais on ne peut pas vivre en Afrique du Sud et faire comme si on n'était pas au sein d'un crime contre l'humanité ». Et elles se sont mobilisées. Eh bien, non seulement ça a été juste du point de vue moral, mais je dirais que ça a été efficace du point de vue politique. Pourquoi? Parce que lorsque, enfin, l'apartheid a été aboli, Mandela est devenu président, eh bien, il a créé la Nation Arc-en-Ciel et il a dit aux associations LGBT, vous nous avez aidés dans la lutte contre l'apartheid, qu'est-ce que moi je peux faire, militant contre l'apartheid, pour vous aider? Et l'Afrique du Sud, comme on le sait, est devenu le premier pays du monde à intégrer la protection des minorités sexuelles dans sa constitution. est le premier pays d'Afrique, le seul d'ailleurs, à autoriser le mariage des couples de même sexe. Alors je trouve que c'est une belle histoire, c'est une belle leçon pour montrer comment la solidarité, non seulement ne nous fait pas diluer notre combat, mais elle nous renforce et en ayant des alliés, nous sommes ainsi évidemment renforcés dans notre combat.
Louis-Georges, j'aimerais t'amener sur un sujet qui est relié, mais qui n'est peut-être pas aussi gay, si on peut le prendre dans ce sens du mot, le sens très basique, gay, qui n'est pas très heureux. Notre monde ne va pas bien. Je pense que je ne me trompe pas en disant ça. La haine, la violence et l'extrême droite semblent avoir pris le dessus dans plusieurs pays. Nos communautés souffrent. Comment on peut expliquer ces reculs alors qu'on avait fait tant de pas en avant jusqu'à tout récemment?
Il y a deux hypothèses. L'hypothèse pessimiste consisterait à penser qu'il y a effectivement une offensive de l'extrême droite dans le monde qui ressemble un peu à celle des années 30 en Europe et que nous serions par conséquent les cibles privilégiées, évidemment, de tous ces groupes. Il y a une deuxième lecture qui est possible, qui consiste à dire les avancées importantes qu'il y a eu depuis 40 ans pour les personnes LGBT, un peu plus pour les personnes racisées, également pour les femmes, toutes ces avancées, elles sont d'une certaine façon importantes et il n'est pas étonnant, en ce sens, qu'il y ait des réactions. Mmh. Et que ces réactions seraient évidemment un backlash, si on veut, mais une forme de parenthèse. On pourrait dire, par exemple, est-ce qu'au fond, l'élection de M. Trump n'est pas simplement une espèce de sursaut de gens qui se savent de toute façon condamnés, dont leur idéologie est une idéologie en déclin, par rapport à la poussée démographique, par rapport à l'empowerment des femmes, des racisés, des LGBT. Donc ils font ce qu'ils peuvent, parce qu'il y a eu Barack Obama, ils se disent « Ouh là là, il faut vite réagir ». Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils savent par exemple que d'ici deux générations, eh bien, ils ne pourront plus se permettre de faire ce genre.
Je terminerai là-dessus, Louis-Georges. Est-ce que ça va aller mieux?
Quand on compare avec d'autres mouvements sociaux, nous sommes probablement le mouvement social qui a le plus fait en 40 ans, c'est-à-dire en moins de deux générations. C'est énorme. Alors, il est vrai qu'on revenait de loin.
Oui.
C'est vrai. Il y avait une marge de progrès très considérable. Mais ça veut dire beaucoup. Alors, il peut y avoir des hauts et des bas, mais quand on a eu des gens aussi courageux dans le monde entier qui ont fait autant de choses et si vite, c'est remarquable. Et il y a là donc des espoirs, en deux mots, il y a des espoirs parce qu'il y a des gens qui luttent. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, dit le poète.
Ah, merci beaucoup, Louis-Georges.